Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant l'évangile de Saint Jean. Nous arrivons à l'étude numéro 7 et le titre sera « Les deux défenseurs ». Lorsque nous songeons à la dernière soirée de Jésus avec ses disciples, nous pensons normalement à l'institution de la Sainte Cène dans la salle où était célébrée la Pâque. Alors que Saint Matthieu, Marc et Luc nous racontent cet épisode en détail, l'évangile de Jean est muet au sujet du pain rompu et du vin bu. Il ne mentionne pas du tout de repas. Pourtant, voyez-vous, Saint Jean livre tout de même plus de renseignements que quiconque sur ce qui s'est passé ce soir-là. Il relate ce que l'on a appelé le discours d'adieu de Jésus, une longue allocution de 3 chapitres, suivie d'une prière majestueuse qui occupe un autre chapitre. En général, une personne qui sait qu'elle va mourir ne tourne pas autour du pot et ne part pas dans les choses superficielles. Elle exprime ce qui lui tient le plus à cœur et de l'importance pour son entourage. Nous devrions donc, par conséquent, accorder beaucoup de poids au thème principal développé par Jésus dans ce passage. Même s'il aborde de nombreux sujets, un thème paraît ressortir. Quelque chose pèse sur son cœur juste avant sa mort. De quoi s'agit-il donc? Au cours des 3 années qui viennent de s'écouler, les apôtres ont constamment bénéficié de rencontres personnelles avec Jésus. Ils ont donc vécu et travaillé avec lui. Ils ont parlé et prié avec lui. Mais maintenant, eh bien oui, maintenant, il leur dit tout simplement, « Mes petits enfants, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Vous me chercherez, et ce que j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais, et non. Et je vous le dis à vous aussi maintenant, vous ne pouvez pas venir là où je vais. » Saint Jean, chapitre 13, verset 33. Cette affirmation déclenche des manifestations d'inquiétude, évidemment. L'apôtre Pierre affirme qu'il va suivre Jésus où qu'il aille, et il va même donner sa vie s'il le faut pour lui. Saint Jean, chapitre 13, verset 37. Thomas, lui, se montre un peu plus prudent, mais il est tout de même troublé. Il se demande comment il pourrait connaître le chemin sans connaître la destination. Saint Jean, chapitre 14, verset 5. Lorsque Jésus déclare qu'il se rend à la maison de son Père, Saint Jean, chapitre 14, verset 2 et 3, Philippe, lui, il demande qu'il leur montre le Père. Saint Jean, chapitre 14, verset 8. Si vous avez lu en entier le récit de la vie et du ministère de Christ auprès de ces hommes, vous remarquerez à quel point ces déclarations sont empreintes d'ignorance. Pierre, l'apôtre, ne sait pas du tout de quoi il est capable. Tu donneras ta vie pour moi, insiste Jésus. Saint Jean chapitre 13, verset 38. De plus, bien que leur maître leur ait répété qu'il allait mourir pour les péchés des hommes, ils ne l'ont pas encore assimilé. Il doit déplorer, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me ne connais pas encore tellement, mon cher Philippe. Saint Jean chapitre 14, verset 9. Une remarque quelque peu cinglante, mais tout de même révélatrice d'un terrible constat après tout le temps et toute l'attention qu'il leur a consacrée, ses disciples ne le connaissent pas réellement. Ils n'ont pas vraiment eu avec lui la rencontre profonde et personnelle dont ils avaient besoin. Ils ont donc une piètre compréhension de leur propre cœur, et pire encore, du cœur et des objectifs de Jésus. La situation est tout de même désastreuse. Les agents de Jésus, triés sur le volet pour apporter son message au monde, ne le connaissent pas vraiment. Et il mourra bientôt, c'est-à-dire le lendemain. Pire encore, il sait qu'ils seront en butte à la persécution et à l'opposition dès lors qu'il sera sur la croix. Quel espoir y a-t-il qu'il parvienne un jour à le connaître et à transmettre son message? Espoir il y a, et Jésus le dévoile d'abord de façon énigmatique en Saint Jean, notez bien Saint Jean, chapitre 14, versets 16 à 20, ainsi que les versets 25 à 27. Là, Jésus dit, « Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, non. Je reviens vers vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous, mais le défenseur, c'est-à-dire l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Saint Jean chapitre 14, versets 16 à 20, et j'ai dit les versets 25 à 27. Jésus affirme plusieurs éléments remarquables. Il parle de la venue de l'Esprit de Dieu dans les disciples. Quiconque a lu l'Ancien Testament sait que l'Esprit de Dieu est une force, une puissance qui provient du Père et agit dans le monde. Mais Jésus parle de l'Esprit de façon étrange pour eux, pour l'instant. Premièrement, il décrit l'Esprit non comme une simple force, mais comme une personne. En grec, les noms ont trois genres possibles, masculin, féminin ou neutre, c'est un peu comme l'allemand. Alors que le mot grec pour esprit est neutre, Jésus parle souvent de l'esprit en utilisant le pronom masculin « il », ce qui le distingue clairement d'une énergie divine qui serait nébuleuse et quelconque. Il affirme en substance qu'après son départ, après sa mort, le Père enverra une personne à sa place. Il déclare ensuite qu'il doit partir pour que cette personne vienne. Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Saint Jean, chapitre 16, verset 7. Pourtant, il vient d'affirmer, je reviens vers vous. Saint Jean, chapitre 14, verset 18. C'est en quelque sorte par l'entremise de cette personne que les disciples réussiront à voir Jésus, contrairement au reste du monde, puisqu'il ne sera plus présent physiquement. Dans un certain sens, il sera parti, dans un autre sens, il restera présent par le biais de la personne envoyée par le Père. Qui est donc cette fameuse personne? Jésus parle d'un autre défenseur. Le mot est traduit de façon différente selon les versions. Classiquement, on parlait du consolateur. Certains emploient la notion d'aide. D'autres évoquent un conseiller. Lorsque les traductions divergent, c'est habituellement parce que le sens de l'original comporte trop de nuances pour pouvoir être rendu par un seul terme. Donc, consolateur, cela fait penser à quelqu'un qui vous tient simplement la main. Un conseiller suggère quelqu'un qui écoute, qui aide, et cela peut renvoyer à un enfant ou à un assistant relativement, il faut bien dire, inexpérimenté. Or, la notion de défenseur, avec sa connotation juridique, cela fait ressortir différents aspects de ce mot riche de sens. Dans ma version allemande, c'est le défenseur. Le mot grec est parakletos. C'est un nom. La forme verbale est parakaleo. Kaleo signifie appeler, convoquer. Para, cela signifie auprès de, à côté de. C'est un préfixe qui apparaît dans notre langue avec un sens similaire dans des mots comme paragouvernemental ou paramédical. Il s'agit donc de se tenir auprès de quelqu'un pour le soutenir. Peut-être remarquerez-vous une certaine tension ici. Convoquer quelqu'un correspond à une attitude active et non passive, à la manifestation d'une certaine force, d'une certaine puissance. Vous le dirigez vers la vérité ou vers le but à atteindre. Vous ne vous contentez pas de lui parler, ni même de lui demander quelque chose. Vous le poussez dans une certaine direction. se tenir auprès de quelqu'un évoque plutôt l'empathie, la relation, la capacité de se mettre à la place de l'autre. Le mot paraclétos est donc un amalgame déjà on peut dire, de défi prophétique et de soutien sacerdotal. Oh, ça ne vient pas de moi, c'est bel et bien le paraclétos qui me l'enseigne maintenant. Et voilà pourquoi, chers amis, la traduction par conseiller n'est pas tellement mauvaise que cela si on l'emploie dans un sens particulier. Lorsque vous et moi songeons à ce mot, à notre époque, nous pensons presque immédiatement à un psychologue ou à un thérapeute. Or, il vaudrait mieux songer à un conseiller juridique. Oui, un avocat de la défense. Ça peut être Parion, ou ça peut être quelqu'un encore bien plus connu. Votre avocat prendra donc votre défense. Il est de votre côté et à vos côtés. Ça, c'est absolument certain. Cependant, oui, il n'est pas là simplement pour vous réconforter. Non. Non, il peut avoir des vérités pénibles, voire même dérangeantes, à vous communiquer, mais toujours pour vous aider et pour favoriser votre cause. De plus, il ne s'adresse pas seulement à vous, mais aussi aux autorités présentes pour vous. Et voilà pourquoi les traductions qui parlent de l'Esprit Saint comme d'un défenseur ou d'un avocat sont, en mon avis, sur la bonne voie. Telle est donc la manière dont Jésus définit ou décrit l'Esprit Saint en employant ce terme pour parler de lui. Toutefois, nous devons aussi relever qu'il parle de lui comme d'un autre défenseur. Qui donc est le premier? Eh bien, le seul autre passage du Nouveau Testament où le mot paraclétos est utilisé, c'est la première épître de Johannes, de Saint Jean, chapitre 2, versets 1 et 2. Si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur, paraclétos, auprès du Père. C'est Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Je répète, si quelqu'un a péché, nous avons donc un défenseur auprès du Père, le Paraclétos. Jésus-Christ, c'est lui le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Jésus est donc le premier défenseur. Et l'Esprit Saint, c'est le second. J'aimerais vous faire prendre conscience que la notion de défenseur constitue la clé, der Schlüssel, pour comprendre non seulement l'œuvre de Jésus sur la croix, mais aussi celle de l'Esprit Saint dans notre cœur. Et j'ajoute, dans notre esprit. À moins de savoir que Jésus est le premier avocat, vous ne comprendrez pas ce que fait l'Esprit Saint en tant que second avocat. Et c'est là que réside la solution du problème évoqué par Jésus lors de son dernier repas. Des hommes qui, malgré 3 années de vie à ses côtés et d'enseignement par lui, ne comprenait toujours pas son action et ne connaissait pas en profondeur tout cela. Penchons-nous d'abord, chers amis, sur ce que le terme nous révèle à propos de l'œuvre de Jésus, puis sur ce qu'il dévoile à propos de l'œuvre du ou de l'Esprit-Saint. Qu'a fait Jésus sur la croix? Qu'a-t-il fait? On pourrait dire, c'est facile, il est mort pour nos péchés, et cela signifie que nous pouvons être pardonnés. En se présentant comme notre défenseur, Jésus montre que sa mort correspond à un acte plus radical encore. La première chose que le terme implique, c'est qu'il existe un tribunal quelque part, un genre de tribunal universel et divin devant lequel nous allons comparaître tous, moi et vous y compris. Certains diront peut-être, « Oh, moi je suis une personne instruite, j'ai des doutes par rapport à la notion de jugement divin. Accordez-moi quelques instants, s'il vous plaît, pour vous montrer ce me procure l'intime conviction de la possibilité de croire en l'existence de ce jugement. Eh bien, à mes yeux, une des scènes les plus terrifiantes de la littérature, elle se trouve dans la pièce de théâtre « Mort d'un commis-voyageur » de Arthur Miller. Willy Lohmann est un commis-voyageur qui a l'impression d'être ni plus ni moins qu'un raté. Son apitoiement sur lui-même l'amène à tromper régulièrement sa femme au cours de ses voyages. Alors il se justifie, comme le font bien des hommes, en se disant « Oh, ma vie, elle n'est pas tellement facile, elle est plutôt dure. » Ou « Les relations extra-conjugales, ça veut rien dire. » Etc., etc., etc. Sa seule consolation dans la vie est probablement le fait que son fils Biff, ce fils-là, l'idolâtre. Ce fils, ce garçon, a, on peut dire, une image de son père comme quelqu'un de noble, de merveilleux, de pur, de droit, etc. Voilà qu'un jour, ce fils, ce garçon, se présente à sa chambre d'hôtel et le surprend avec une jeune fille. Oh, comprenez bien que le garçon a tout de suite compris que ce n'était pas sa sœur puisqu'il n'en a pas. La scène est insoutenable. Au départ, Willy le papa essaye de prendre un air important et dit « Écoute, mon garçon, quand tu grandiras, tu comprendras toutes ces choses. » Mais le garçon se contente de le dévisager. Puis, le papa essaye de l'intimider et lui ordonner d'oublier cet incident. Mais lorsque son fils finit par s'enfuir, et j'ai les larmes aux yeux, en le traitant de sale petit menteur de rien du tout, Eh bien, ce papa, croyez-le ou pas, tombe à genoux. Tombe à genoux. Car toutes ces justifications ne lui ont servi à rien. La scène me donne à chaque fois des frissons. Toutes les excuses d'un homme s'évanouissent purement et simplement devant le regard candide et innocent de son enfant qui peut enfin prendre conscience de la réalité. Son papa a beau faire tout ce qu'il peut, son cynisme, ses tentations de se tromper lui-même et ses fausses justifications, tout cela s'effondre et il reste là, l'âme mise à nu, à genoux, devant ses yeux de garçon, de son garçon, devant ses yeux honnêtes et purs et innocentes. Dans le deuxième chapitre de sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul affirme qu'en leur fort intérieur, les êtres humains sentent, même s'ils s'efforcent de réprimer cette impression, qu'il y a quelque part une paire de yeux, des yeux divins, qui les regardent de cette façon-là. Et ce regard est infiniment plus pénétrant, plus juste et plus honnête, même que celui de ce garçon, de ce fils. Excusez-moi, je dois m'essuyer les yeux. Lorsque il se posera sur nous, eh bien, toutes nos excuses s'évanouiront. Bien sûr, beaucoup disent, oh, moi, je ne crois pas à l'existence d'une justice divine. Je crois que les notions de bien et de mal dépendent des gens et des cultures. N'est-il pas vrai, cependant, qu'une minute plus tard, vous agissez comme si cette justice existait bel et bien? Si vous rencontrez quelqu'un qui vous traite de façon assez cruelle, hein? J'essuie mes yeux, excusez-moi, bien qu'il ne fasse rien d'illégal, n'avez-vous pas le sentiment, chers amis, que peu importe la manière dont il justifierait son comportement, ce qu'il fait est tout simplement mal? Vous ne vous dites pas, d'après mon sens moral, c'est peut-être mal. Mais d'après le sien, ça ne l'est peut-être pas du tout. Non, vous savez instinctivement qu'il y a des attitudes qui sont mauvaises, même si la culture, la famille ou le sentiment de votre agresseur l'autorise à les adopter. Cela a beau lui paraître naturel, vous savez que ce n'est pas ainsi que les choses doivent être. Or, ce qui est naturel ne peut être associé au mal que s'il y a une norme surnaturelle qui vous permet de porter un jugement. Nous ne pouvons pas échapper à la conscience qu'il y a un tribunal quelque part pour nous tous. Il y aura un tribunal. La Sainte Bible enseigne que le jugement nous concerne tous, vous et moi. Il y a effectivement une norme de vie avec laquelle nous devons tous composer. Et voici notre dilemme. Si la Sainte Bible a tort et que Dieu n'existe donc pas, s'il n'y a pas de tribunal, et que la violence et l'injustice sont tout à fait naturelles, quel espoir y a-t-il pour le monde? Je vous le demande. Et s'il y a effectivement un tribunal, quel espoir y a-t-il pour vous et pour moi? même pour Donald Trump. Personne ne se montre à la hauteur de ses propres normes morales, encore moins de celles de Dieu. Considérons la règle d'or qui dit « Traite les autres comme tu voudrais être traité ». Tout le monde est d'accord avec cette règle-là. Pourtant, qui la respecte vraiment? À votre avis, qu'est-ce que la conscience? La description de l'apôtre Paul en Romains chapitre 2 permet de la comparer à un récepteur de radio qui capte les transmissions du siège de la justice. Certains pensent, oh, si je me sens toujours coupable, c'est la faute de ma mère ou de mon père. Elle m'a fait ceci ou il m'a fait cela. En dépit des thérapies suivies, ils se sentent toujours coupables. Pourquoi donc? Une histoire familiale pénible peut déformer votre conscience de telle sorte qu'elle réagit de manière excessive à certaines choses et de façon trop molle à certaines autres choses. Mais votre famille est incapable de te créer ce sentiment de culpabilité et elle ne peut que l'aggraver. L'apôtre écrit donc que ceux qui ignorent la loi de Dieu ou qui n'y croient pas du tout montrent que l'œuvre de la loi est malgré tout écrite dans leur cœur, car leur conscience, voilà, en rend témoignage, s'ils en ont encore un peu, et leur pensée les accuse ou les défend tour à tour. Romains chapitre 2, verset 15. Par conséquent, si ce jugement divin existe vraiment, ce n'est pas un problème pour nous plus tard, mais c'en est un déjà maintenant. Nous lui attribuons des noms qui nous permettent de blâmer les autres, c'est-à-dire un manque d'estime de soi ou encore la honte et la culpabilité, mais en réalité, c'est ce tribunal que même une conscience pure impose à chaque instant à notre vie, à nos émotions, à notre compréhension de nous-mêmes. Même si nous nous débarrassons de parents dominateurs et de normes, on peut dire culturelles, oppressantes, même si nous appliquons nos propres normes morales librement choisies, nous continuons de nous sentir accusés. Il y a donc une voix en nous qui nous dit que nous sommes des idiots, des imposteurs, des ratés, que nous ne sommes pas ce que nous devrions vraiment être. Au plus profond de nous, nous savons que ce tribunal existe bel et bien, tout comme la Sainte Bible l'affirme. Et nous savons qu'il nous est tout à fait impossible de comparaître seul devant lui. Et lorsque Jésus est présenté comme un défenseur, cela sous-entend l'existence de ce tribunal et la nécessité pour nous d'en tenir compte, car nous devons y comparaître un jour ou l'autre. C'est donc le premier élément que le mot défenseur implique. Le deuxième élément que l'emploi de ce terme implique, c'est que Jésus-Christ n'est pas uniquement un modèle de comportement, même s'il l'est quand même, ni uniquement aimant, même s'il est aussi, bien que tout cela soit utile, cela ne suffit pas à répondre à nos besoins. Donc, si le tribunal divin existe, et notre conscience nous l'atteste, eh bien, nous avons besoin d'un véritable défenseur. Réfléchissons maintenant à ce qu'un défenseur fait pour nous. Quand vous êtes accusé d'un crime et que vous comparaissez au tribunal, que fait pour vous l'avocat de la défense? Qu'est-ce qu'il fait? Dans un certain sens, votre avocat, c'est d'abord vous. Eh oui, au tribunal, votre avocat se superpose à vous. Si vous bégayez, mais que votre avocat est très éloquent, de quoi avez-vous l'air? Vous avez l'air de quelqu'un d'éloquent. Si vous êtes ignorant, mais que votre avocat est très brillant, de quoi avez-vous l'air? Eh bien, vous avez l'air de quelqu'un de brillant. Parfois, vous n'êtes même pas tenu de parler vous-même, ni de vous présenter en personne. Ça arrive. Votre avocat se présente à votre place. Si vous avez assez d'argent, il se substitue donc à vous. Donc, à quoi ressemblez-vous au tribunal? Eh bien, vous ressemblez à votre avocat. Nous percevons dès lors la puissance de ce que l'apôtre Jean écrit dans sa première lettre, dans la première lettre de Saint Jean, chapitre 2, verset 1. Si nous sommes déclarés coupables par le tribunal et même par notre propre conscience, de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin d'un bon exemple, d'un soutien, c'est-à-dire de quelqu'un qui puisse nous montrer comment nous relever et faire de nouveaux efforts. De quelqu'un qui puisse venir à nos côtés et qui dise « Mon ami, tu peux y arriver ». Donc de quelqu'un qui connaisse la loi et qui soit capable de nous indiquer en quoi nous l'avons enfreinte. Oui, nous avons donc besoin de tout cela, mais cela ne répond pas à notre besoin essentiel. Ce n'est pas seulement d'un avocat très doué que nous avons besoin, mais nous avons besoin d'un défenseur irréprochable qui puisse apparaître pour nous devant le Père. Il nous faut donc pousser la métaphore un peu plus loin. Si nous sommes accusés au tribunal, nous n'avons pas seulement besoin d'un avocat éloquent et très intelligent, nous avons besoin d'un avocat qui ait des arguments à présenter. Peu après ma conversion au christianisme, j'ai appris que Jésus-Christ intercédait en ma faveur devant le Père. Je l'ai lu dans la lettre aux Hébreux, où Jésus est décrit comme notre grand prêtre qui se tient devant le Père pour nous, à l'instar des prêtres de l'Ancien Testament pour le peuple d'Israël. En découvrant cette vérité-là, je me le suis imaginé de se présentant devant le trône, c'est-à-dire devant Dieu le Père. Bonjour Père, bonjour Papa. Je représente Henri. Mon client, je l'admets, passe une très mauvaise semaine. Il n'a pas respecté 3 ou 4 promesses qu'il t'a faites. Il a enfreint plusieurs de tes lois qu'il connaît et dont il reconnaît la pertinence. Il a beaucoup péché cette semaine. Il le regrette sincèrement. Il mérite d'être puni, mais sois indulgent, mon Père. S'il te plaît, à cause de moi, ton fils Jésus-Christ, je te demande de lui accorder une autre chance. Et j'ai aussi imaginé que le Père répond, « Eh bien, je suis d'accord, pour toi, mon fils, je lui accorde une autre chance. » Le hic avec ce scénario imaginaire, c'est que Jésus n'a pas d'argument. Il plaide simplement pour une autre chance. Je me rappelle avoir pensé, je me demande combien de temps Jésus peut continuer ce manège. Et je me demandais quand le Père, Dieu le Père, finirait par dire « Ça suffit, j'en ai assez ». En fait, mon imagination ne disposait pas des bonnes informations. Voyez-vous, il ne suffit pas pour un avocat de jouer sur la corde sensible du jury ou du juge et d'essayer de retarder le verdict ou d'avoir recours à des défauts de procédure. Il n'a pas besoin de faire appel à de grands effets ou à de la manipulation émotionnelle, mais d'arguments réels, c'est-à-dire d'un véritable dossier. Et c'est exactement ce que Jésus a. Il a un véritable dossier. Quels sont ces arguments, chers amis? Eh bien, Saint Jean, le disciple Jean, le signale. Il dit d'abord, il est lui-même Jésus, la victime expiatoire pour nos péchés, premier épître de Johannes, de Saint Jean, chapitre 2, verset 2. Lorsqu'il se présente devant le Père, il ne demande pas grâce pour nous. Bien sûr, Dieu a fait preuve d'une grâce infinie en l'envoyant mourir pour nous, mais cette grâce a déjà été accordée. Jésus n'a donc pas besoin de prier pour l'obtenir. Dans la même lettre, Saint Jean déclare « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Premier épître de Saint Jean, chapitre 1, verset 9. Il n'est pas dit que si les chrétiens confessent leurs fautes, Dieu pardonne parce qu'il est plein de compassion et leur laisse une autre chance. Il n'est pas dit cela. Il pardonne Jésus-Christ et le Père, Dieu le Père pardonne parce qu'il est fidèle et juste. Ne pas nous pardonner serait donc injuste. Comment cela est-il possible? Bon, la meilleure façon d'obtenir l'acquittement d'un client ne consiste pas à compter uniquement sur la sympathie de la cour, mais à prouver qu'il doit être acquitté en vertu de la loi, à pouvoir affirmer avec intégrité et conviction que la loi dit ceci et elle exige l'acquittement de mon client, à présenter non pas des arguments fondés sur les sentiments passagers, ces sentiments de la cour, mais selon un dossier clair, absolument clair aux yeux de la loi. Or ça, c'est le cas de Jésus. Jésus peut dire, effectivement, « Père, ces gens-là, il est vrai qu'ils ont péché. » Et d'après la loi, le salaire du péché, c'est la mort. Mais, mon papa, j'ai payé le gros prix, j'ai payé pour ces péchés. Regarde, cher papa, voici mon sang, le symbole de ma mort. Sur la croix, j'ai entièrement payé la sanction de leurs péchés. Exigez d'eux maintenant une sanction pour le même péché, ce serait tout de même injuste. Donc, je ne sollicite pas ta clémence, je demande simplement justice. Si les affirmations de Jésus sont vraies, eh bien le dossier est inattaquable. Vous l'avez compris? C'est ce que permet à Saint Jean d'affirmer que lorsqu'ils reconnaissent leur faute, les chrétiens obtiennent le pardon, parce que la justice de Dieu, elle l'exige désormais. Or, toutes les autres philosophies et religions du monde associent la vie à l'image de la balance de la justice. Vous vous rappelez la femme aux yeux bandés qui tient la balance. Dans cette métaphore, vous vous trouvez sur un des plateaux de la balance, sur l'autre, il y a la loi de Dieu qui dit « Faites passer Dieu avant tout. Obéissez à la règle d'or. » Les éléments de cette loi s'empilent en votre défaveur et font évidemment pencher la balance. Vous devez passer le reste de votre existence à accumuler désespérément les bonnes actions, les mérites et la discipline sur votre plateau pour faire contrepoids à la loi divine. Autrement dit, la loi de Dieu joue contre vous et vous avez intérêt à mener une bonne vie. Sinon, elle va l'emporter sur vous et vous, elle va vous mener à votre perte. Elle, la loi, vous entraîne constamment vers la condamnation et vous devez faire contrepoids ou vous devez la neutraliser. Mais, devinez quoi? Si Jésus est votre défenseur, la loi de Dieu joue maintenant complètement en votre faveur. Elle est de votre côté de la balance. Lorsque vous placez votre foi en Christ, lorsque vous faites du fond du cœur et que vous dites du fond de votre cœur, « Père, accepte-moi à cause de quoi ? À cause de ce que Jésus a accompli à la croix. » Alors l'œuvre de Jésus sur la croix, elle est portée sur votre compte. Donc la loi de Dieu exige désormais votre acquittement. C'est pourquoi lorsque Saint Jean qualifie Jésus de défenseur, il appelle aussi le juste. Premier épître de Saint Jean, chapitre 2, verset 1. Cette expression suggère que lorsque Dieu vous regarde, si vous êtes chrétien, il vous voit en Christ. Laissez à vous-même, seul de votre côté de la balance, vous êtes un pécheur, on est d'accord avec cela. Mais en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, vous êtes maintenant juste. Vous êtes magnifique, vous êtes même vertueux, vous ne faites que un avec votre défenseur. Donc, si Jésus est votre défenseur, la loi de Dieu joue complètement en votre faveur. Alléluia. D'après 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Autrement dit, tout comme Jésus n'était pas personnellement pécheur, mais a été traité comme tel et puni sur la croix, nous qui croyons en lui, même si nous ne sommes pas personnellement vertueux et parfaits, hélas, nous sommes traités comme des gens vertueux, magnifiques et irréprochables par le Père. Pourquoi ? Oh, pas à cause de nous, mais à cause de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Quelle est donc la tâche du premier défenseur ? Elle consiste à dire au Père, « Regarde, regarde ce que j'ai accompli. Et maintenant, accepte ces gens. Et en moi et par moi, tu peux vraiment les accepter. » Quelle est alors la tâche de l'autre défenseur, celui que Jésus promet à ses disciples de leur envoyer, c'est-à-dire l'Esprit Saint ? Souvenez-vous qu'il nous sera impossible de comprendre l'œuvre du deuxième défenseur tant que nous n'aurons pas compris celle du premier. Beaucoup disent que l'Esprit Saint nous remplit de puissance, et c'est vrai. Mais comment le fait-il ? Est-ce qu'il nous bombarde simplement de particules d'énergie intense ? Non, non, non. Et en l'appelant l'autre défenseur, eh bien, Jésus nous a donné l'indice essentiel qui permet de comprendre comment l'Esprit Saint nous remplit de puissance. Si le premier défenseur s'adresse à Dieu pour vous, le second s'adresse à vous pour vous. Je répète, si le premier défenseur s'adresse à Dieu, le Père, pour vous, le second défenseur s'adresse à vous pour vous. Tout au long de son discours d'adieu, Jésus affirme que l'œuvre de l'Esprit consiste à prendre tout ce que lui-même a fait en notre faveur, tout ce que les disciples n'ont pas encore saisi, et de tout enseigner, et de tout rappeler, et de permettre aux futurs apôtres de comprendre enfin tout ce qu'il leur a appris au sujet de son œuvre de salut. Saint Jean chapitre 14 verset 26. Si vous passez devant un bâtiment le soir et qu'il est illuminé par un projecteur, vous vous dites quel beau bâtiment. Vous ne voyez peut-être même pas d'où provient la lumière. La fonction du projecteur n'est pas de se montrer à vous, mais de vous montrer la beauté du bâtiment, de mettre ses caractéristiques en valeur. Dans la salle, oui, il y avait dans la salle, la veille de la crucifixion, il y avait les disciples qui ne perçoivent absolument pas à quel point Jésus les aime, ni ce qu'il lui en coûtera de les aimer, ni ce que son amour accomplira pour eux. Tout cela est d'une très grande opacité pour eux. Par conséquent, même s'ils ont vécu avec lui pendant 3 années, ils n'ont pas rencontré le vrai Jésus. Oh, il faut comprendre cela. Simplement, c'est pas compliqué. Ils ne le connaissaient toujours pas vraiment, vraiment. Toutefois, l'Esprit Saint viendra. Alléluia. Il ne se contentera pas de leur tenir la main ou de leur donner de l'énergie. Il leur enseignera une vérité profonde qui changera leur vie. Il les aidera à voir enfin la gravité de leurs péchés, selon Saint Jean chapitre 16, verset 9, et il leur montrera ce que Jésus a accompli pour eux. J'aime le fait que l'Esprit Saint n'est pas simplement un simple instructeur, mais qu'il est au fait un défenseur. Même s'il est l'esprit de la vérité, il ne se contente pas pardon, de nous enseigner des choses ou de nous renseigner, mais il nous incite à vivre profondément à ce qu'il nous apprend. Pardon. Il nous déclare coupable et nous lance un défi. Selon Saint Jean, chapitre 16, verset 8, et noté jusqu'au verset 11. Il nous dit, vous êtes des pécheurs. Vivez-vous vraiment dans l'humilité et dans la dépendance envers Dieu qui découle de ce fait-là. Cependant, vous êtes aussi maintenant, vous êtes juste en Christ. Vous êtes maintenant adopté et accepté dans sa famille. Vivez-vous maintenant avec l'audace, vous pouvez, avec l'audace et la liberté conforme de ce fait. Êtes-vous aussi libéré du besoin de pouvoir, d'approbation et de confort offert par ce monde que vous le devriez? Alors il vous conseille le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous encourage, il nous invite et nous incite. C'est la traduction possible de parakaleo, de parakaleo, c'est-à-dire à mener une vie qui correspond à l'œuvre et à la réalité de l'amour du Christ. Et voilà pourquoi Jésus peut affirmer que par l'entremise de l'Esprit Saint, il se fera enfin connaître à ses amis. Saint Jean chapitre 14 verset 21, oui, ils le verront et ils bénéficieront de sa présence aimante. Voyez-vous un peu ce que tout cela implique? Les apôtres n'ont pas vraiment connu Jésus, ils ne le pouvaient pas avant qu'il ne les quitte physiquement et ne revienne par le biais de l'Esprit Saint. Et c'est très encourageant pour nous les chrétiens. Nous avons naturellement tendance à penser qu'il aurait mieux valu de vivre à l'époque de Christ pour pouvoir le rencontrer et l'entendre de nos oreilles et de le voir de nos yeux. Peut-être croyez-vous que vous pourriez mieux le connaître ainsi. Mais moi je vous dis que vous auriez tort. En tout cas, ça engage que moi. Car avant la mort de Jésus, l'Esprit Saint n'avait pas été déversé dans le monde avec puissance. Or, vous ne pouvez le connaître pleinement que grâce à l'influence de l'Esprit Saint lorsque il vous montre dans l'ombre de la croix la hauteur, la profondeur et tout l'amour pour nous. En d'autres termes, ici même et maintenant déjà, par l'entremise de l'Esprit Saint, vous pouvez voir Christ et vous pouvez percevoir sa présence et son amour mieux encore que les apôtres ne le pouvaient dans la salle à Jérusalem. Même en tant que chrétiens, nous ne vivons pas toujours en étant pleinement conscients de cette réalité-là. Nous ne saisissons pas la grandeur de ce qui nous est offert dans l'Esprit Saint. Imaginez que vous soyez un milliardaire comme Donald Trump et que vous ayez 3 billets de $10 dans votre portefeuille. Vous descendez d'un taxi et remettez au chauffeur un des billets pour une course de $8. Plus tard dans la journée, voilà que vous regardez dans votre portefeuille et vous remarquez fil ne contient qu'un seul billet de 10 dollars. Vous vous dites, soit un billet de 10 dollars est tombé quelque part, soit que j'ai donné deux billets sans m'en rendre compte au chauffeur. Qu'allez-vous faire? Allez-vous vraiment vous fâcher tout rouge? Allez-vous laisser l'incident perturber tout le reste de votre journée? Allez-vous vous rendre au commissariat et demander qu'on rapetisse toute la ville pour retrouver le chauffeur de taxi? Non, non, non. Vous allez simplement hausser les épaules. Et pourquoi? Parce que vous êtes milliardaire. Vous avez perdu 10 dollars ou 10 euros. Qu'est-ce que ça peut faire, après tout? Vous êtes bien trop riche pour vous préoccuper de ce genre de perte. Eh bien, cette semaine, quelqu'un vous a critiqué. L'un de vos achats ou de vos investissements s'est révélé avoir moins de valeur que vous ne le pensiez. Un événement auquel vous aspiriez ne s'est pas déroulé comme vous l'avez souhaité. Quelqu'un en qui vous avez confiance vous a un peu laissé tomber. Ce sont des pertes réelles, d'accord, qui touchent votre réputation, votre patrimoine matériel et vos espoirs. Qu'allez-vous faire? Si vous êtes un chrétien véritable, ce contretemps va-t-il mettre un terme à votre sentiment de contentement face à la vie? Brandirez-vous le poing vers Dieu? Vous tournerez-vous et retournerez-vous toute la nuit sur votre lit? Si tel est le cas, je pense que c'est parce que vous ne savez pas à quel point vous êtes riche. Vous n'écoutez pas vraiment ce que le second défenseur dit au sujet du premier. Vous ne vivez pas dans la joie. Vous oubliez que les seuls yeux de l'univers qui importent ne vous voient pas comme le sale petit menteur, c'était mon cas, que vous avez parfois été, mais maintenant, il vous voit comme une personne d'une beauté sublime. Vous laissez perturber par votre position aux yeux d'autrui, fustigez constamment les personnes dont les propos vous blessent, on pourrait appeler cela un manque de maîtrise de soi ou d'estime de soi, et cela en est. Mais plus fondamentalement, c'est une amnésie quant à votre identité. En tant que chrétien, vous êtes milliardaire spirituel et vous vous lamentez pour 10 euros. C'est la tâche du second défenseur d'argumenter avec vous dans le tribunal de votre cœur pour plaider en faveur de votre identité en Christ et pour vous montrer que vous êtes vraiment riche. Et votre tâche consiste donc à écouter. Les seuls yeux de l'univers qui importent Dieu le Père et Jésus-Christ, il vous voit comme étant une personne d'une beauté sublime. Comment faire pour mieux écouter? Ça, c'est un vaste sujet, mais si vous êtes chrétien, eh bien l'Esprit Saint fera son œuvre en vous par le biais des moyens de la grâce, par la lecture et l'étude de la Sainte Bible dans un cadre individuel et collectif, par la prière, par l'adoration, et par le baptême, ainsi que par la Sainte Cène. Ne pas avoir recours à ces moyens de grâce, que vous l'avez compris, qui sont la lecture de la Sainte Bible, qui sont la collectivité dans une chapelle, dans une église, qui sont la prière, l'adoration, qui sont également de se rassembler devant la Sainte Cène, ne pas avoir recours à ces moyens de grâce, c'est refuser à l'autre défenseur des occasions d'accomplir sa tâche. Si à donner pour la forme ou simplement à la légère, cela revient à fermer les oreilles à ses instructions, son réconfort et ses conseils, et ainsi aussi son plaidoyer. Ne pas faire l'expérience de l'œuvre du second défenseur, cela est synonyme de perte incommensurable. Jésus dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Sans le travail de l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas connaître Christ ni bénéficier de sa paix. » En quoi la paix du monde diffère-t-elle vraiment de celle de Jésus? Eh bien, aujourd'hui, on affirme souvent qu'on peut trouver la paix en évitant de trop penser aux grandes questions de la vie. J'avais la connaissance d'un étudiant en médecine qui a dit qu'à la faculté, il avait appris combien le corps humain était fragile, combien de choses pouvaient facilement mal tourner et combien de millions de virus et de microbes attendaient le bon moment pour attaquer. Il disait que cela le perturbait beaucoup. On lui a demandé comment il composait avec sa peur et il a répondu qu'il s'efforçait de ne pas trop y penser. En gros, c'est ainsi que la paix du monde fonctionne. La vie est dure, elle est brutale et courte, puis on meurt. Il ne faut donc pas trop y penser. La paix du Christ fonctionne tout autrement. Il ne s'agit pas de réfléchir moins, mais davantage. Il ne s'agit pas de faire abstraction de la réalité, mais d'y pénétrer, d'y prêter une grande attention. Voyez-vous, l'Esprit Saint nous affirme que le Père nous aime, vous l'avez compris, que notre sort éternel est maintenant assuré. Autrement dit, Christ nous donne d'importantes vérités auxquelles nous pouvons réfléchir. Alors que la paix chrétienne peut être constante, celle du monde ne peut que être intermittente. Puisque le monde est lié aux circonstances, les gens vous aiment, vous gagnez de l'argent, vous aimez votre travail, vous venez de faire une bonne affaire, vous vous trouvez dans un superbe endroit et vous vous sentez en paix. Mais lorsque le cours de l'action baisse et que vous connaissez un échec, c'est la déprime, l'agitation. Oui, pourquoi cela? Parce que votre paix dépend simplement de votre situation. On m'a déjà raconté l'histoire d'un pasteur gallois du XVIIIe siècle qui, alors qu'il n'était qu'un adolescent, il se trouvait avec sa famille au chevet d'une de ses tantes. Celle-ci avait été une chrétienne très fervente et toute la vie durant, alors que tout le monde la croyait inconsciente, on appelle ça aujourd'hui un peu dans le coma, quelqu'un a dit tout haut, quel dommage, elle a eu une vie si dure, ses deux époux sont morts, et elle a souvent été malade. Pour couronner le tout, voilà qu'elle meurt sans le sou. Or soudain, c'est incroyable, or soudain, la mourante a ouvert les yeux, a regardé autour d'elle et elle a dit, « Qui a dit que j'étais pauvre? Mais je suis riche, très riche. Et bientôt, je me tiendrai devant Jésus-Christ aussi courageuse que le lion, et là, elle est morte. On comprend facilement l'impact que cet épisode a eu sur l'adolescent. Cette femme était habitée par la paix de Jésus parce qu'elle écoutait le défenseur. Vous l'avez compris ? Elle affirmait en substance, j'ai le seul époux qui ne peut pas mourir. J'ai la seule richesse qui ne peut jamais disparaître. Et mon Sauveur a depuis longtemps réglé la question du péché. Comment pouvez-vous dire de moi que je suis pauvre ? Et le second défenseur lui avait parlé du premier. Et elle pouvait dire maintenant, confrontée à une grande perte, quel repos, quel céleste repos. En terminant cette étude, sachez, il peut en aller de même pour vous. L'Esprit Saint, le second défenseur, vous l'avez compris maintenant, est peut-être en train de vous parler. Laissez-le vous dire, oui, Jésus, il est ton défenseur. N'est-il pas magnifique? Parce que ta foi en lui, tu peux la placer maintenant en lui. Si vous mettez votre foi dans l'œuvre de Christ, vous pourrez même, le jour du jugement, vous montrer aussi courageux qu'un lion. Dieu vous voit sans tache et sans aucune imperfection, si bien que vous pouvez chanter « L'accusateur peut bien rugir face au péché que j'ai commis, je les connais tous et des milliers d'autres encore, mais le Seigneur n'en connaît aucun. » Chers amis, nous pouvons terminer par une petite prière, je ne sais pas si on y arrivera, prions. Seigneur Jésus, tu es né dans l'abaissement, mais le jour vient où tu seras manifesté dans ta gloire et proclamé roi des rois et seigneur des seigneurs. Oh, que nous soyons de ceux qui t'ont reconnu et adoré dans ton humiliation, afin que nous soyons de ceux que tu reconnaîtras dans ta gloire et que tu associeras ton triomphe. Tu viens bientôt. Fais que nous vivions dans l'attente de ta venue, en gardant les paroles de la prophétie de ton saint livre, que nous tenions ferme et que nous avons, afin que, après avoir vaincu comme toi, que nous soyons avec toi comme toi, tu as vaincu et tu as assisté avec ton Père sur ton trône, sur son trône maintenant. Soutiens par ces magnifiques promesses et par ces espérances glorieuses notre foi qui est souvent faible et réchauffe notre amour et notre zèle pour ton service. Étoile brillante du matin, fais reluire dans nos cœurs ta clarté vivifiante afin que nous marchions à ta lumière. C'est toi, Seigneur Jésus, que notre âme désire. Ceci, c'est après ta présence, après ta communion éternelle, que nous soupirons au jour bienheureux, que celui où nous verrons ta face, où nous te contemplerons sans voile, et où nous serons semblables à toi, parce que nous te verrons tel que tu es. Affermis notre cœur en toi et conduis-nous par ton Saint-Esprit, pour l'amour de tes compassions. Amen. Et chers amis, que le Seigneur vous bénisse richement, parce que vraiment, croyez-moi, il vous aime. Au revoir, et à demain matin, pour la suite de cette série. Que le Seigneur vous bénisse, c'est mon profond désir. Au revoir.